Merci. Voilà, Brigitte et moi, nous sommes très heureux d'être parmi vous. C'est retour à la maison pour nous dès qu'on vient. On doit aussi vous saluer de la part de Joël et Céline et des enfants. Peut-être que je le redirai dimanche pour ceux qui ne sont pas là ce soir. Voilà, ils ont bien aimé le temps qu'ils ont passé avec vous. Et merci de les avoir accueillis. Voilà. Ce soir, j'aimerais qu'on lise un passage dans l'évangile de Marc, un passage que vous connaissez très très bien. Marc 4, et je vais lire à partir du verset 35. Jusqu'à la fin du chapitre. N'est-ce pas souvent les passages les plus lus, surtout ceux qu'on a fait à l'école du dimanche, on pense qu'on les connaît par cœur, de fond en comble, et qu'on n'a plus rien à en apprendre. Mais je découvre à chaque fois qu'il y a énormément de vérité que nous avons ratée. Et donc ce soir, peut-être, vous allez découvrir l'une ou l'autre chose. Voilà, je ne prétends pas que j'en sais plus que vous, mais j'espère que ce que le Seigneur m'a mis à cœur va servir aux uns et aux autres. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit: passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: Silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit: Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi, ou comment n'avez-vous point encore de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres: Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Voilà, vous trouvez les mêmes textes dans Matthieu et Luc. À chaque fois qu'il y a quelque chose d'étrange ou de catastrophique qui se produit dans le monde, les chrétiens s'agitent et s'inquiètent de voir arriver des jours difficiles, des jours qui restreindront leur liberté, leur capacité à parler, et surtout des jours de souffrance. Lorsque j'étais enfant, mes parents parlaient sans arrêt de la fin des temps et des signes de la fin des temps. Et il y a eu des périodes, en fait, qui sont liées à la géopolitique du monde. N'est-ce pas? Il y avait le péril rouge, avant que le rideau de fer ne tombe, jusque dans les années 80. C'était donc cette puissance rouge communiste, le rideau de fer, qui menaçait le monde. Et puis, quand le rideau de fer est tombé, on a beaucoup parlé du péril jaune, la Chine qui montait en puissance et qui commençait à inquiéter tout le monde. Et ensuite, et de façon parallèle, on a entendu parler du péril vert, qui est donc le péril islamiste. L'islam, c'est la couleur verte. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, il y a toutes sortes de périls, comme et toutes sortes de sources d'inquiétude, comme le péril du Covid. Et d'autres périls, le manque d'eau qui arrive, voilà, qui sont tous des sources d'inquiétude pour le monde, mais curieusement aussi pour les chrétiens. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à des problématiques comme l'avortement, qui à l'époque était un délit grave et qui aujourd'hui est devenu normal. Même, c'est devenu une forme de contraception dans certains cas. L'homosexualité, qui à l'époque était considérée comme une déviance et qui était réprimée par la loi, et dont on fait aujourd'hui ouvertement la promotion. Je pourrais aussi vous parler de l'évolution de la notion de genre, mais je pourrais aussi vous parler de l'introduction de pratiques occultes à l'école, l'introduction du yoga dans certaines régions. Et donc, toutes ces choses sont en train d'arriver effectivement. Et on s'aperçoit que nous, chrétiens, nous commençons peu à peu à perdre une certaine partie de notre liberté dans les choses que nous pouvons dire ou ne pas dire. Et puis, il y a aussi tout ce qui touche donc le christianisme, tel que les sectes, les faux prophètes, les fausses doctrines, l'œcuménisme, l'antichrist, l'antéchrist, il y a toutes sortes de choses. Des choses qui interpellent, qui inquiète le monde, et comme je l'ai déjà dit, qui inquiète les chrétiens. Et c'est comme si finalement les chrétiens avaient peur que les dérives du monde envahissent l'Église et que nous en soyons tous infectés et que finalement nous mourions tous des maladies du monde. Et quand je parle des maladies, je ne parle pas du Covid, là, je parle de la maladie spirituelle qui touche le monde, c'est-à-dire l'éloignement de Dieu et toutes ces choses-là. Bien-aimés, j'aimerais dire que l'Église n'est pas en danger. L'Église de Christ n'est pas en danger. Elle va bien. Parce que c'est Dieu qui s'en occupe. N'est-ce pas? Jésus a dit, je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Ça veut dire qu'il s'occupe de l'Église, il est préoccupé en permanence de l'Église et de faire en sorte que celle-ci ne soit pas submergée par toutes ces choses. Et c'est pour ça qu'on peut aussi lire dans Hébreux 13, verset 6, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme ou que peut me faire l'humanité en tant qu'enfant de Dieu? Certains vont me dire, oui, mais tu oublies la persécution. J'oublie pas la persécution. Mais la persécution n'est pas un danger pour l'Église. La persécution fait partie de l'héritage des enfants de Dieu. N'est-ce pas? Jésus a dit dans Jean 15, au verset 20, « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge chaque jour de sa croix. N'est-ce pas? Le renoncement, l'acceptation de la vie que Dieu nous donne, y compris les souffrances, c'est le défi pour l'Église. C'est le défi de vivre, d'accepter la vie que Dieu nous donne, qui était la vie de Jésus. Jésus a souffert, pas seulement à la croix. Jésus a souffert à partir du moment où il a commencé à respirer sur la terre. Il a souffert. Et cet héritage de la persécution, il nous appartient. Pas comme quelque chose que nous devons fuir, pas quelque chose que nous devons rechercher, mais quelque chose que nous devons accepter. acceptée comme étant partie de notre nature chrétienne. Nous faisons partie du peuple de Dieu, nous faisons partie de Dieu, nous sommes en quelque sorte, nous avons été inclus dans la Trinité, si vous lisez Jean 17, et avec ça, la persécution est comprise. Le problème, n'est-ce pas, c'est que souvent nous comptons sur nos propres forces. Et lorsque nous comptons sur nos propres forces, tout devient difficile. Tout. Pas seulement la persécution. Les choses les plus simples peuvent devenir difficiles lorsque nous comptons sur nos propres forces. Lorsqu'il s'agit, n'est-ce pas, de gérer un jardin de 1000 mètres carrés, eh bien, c'est sur les bras qu'il faut le faire. Et c'est dur. C'est pas compliqué. Mais c'est dur, c'est difficile. Pour ceux qui se confient en Dieu, pour le peuple de Dieu, qui aiment le Seigneur de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur pensée, il n'y a pas de danger sur la terre. Et la peur ne fait pas partie de l'équipement des enfants de Dieu. Jésus n'a pas dit « Je suis venu afin que vous ayez peur. » On verra que souvent ça commence par la peur quand on rencontre Jésus. Romains 8, 15 « Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Papa, Abba, Père. » Bien-aimés, la peur est un fruit du péché que nous avons hérité de Adam. N'est-ce pas ? Lorsque Adam et Ève ont péché, qu'est-ce qui s'est passé ? La peur les a précipités sous les arbres pour se cacher du regard de Dieu. Vous le lisez dans Genèse 3, au verset 8. On peut le lire en vitesse. Je vais commencer à verset 7. Donc tout de suite après le péché, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu ? » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » C'est difficile de savoir exactement ce qui s'est passé. Ces passages de la Genèse me fascinent depuis longtemps. Je pense que lorsque Dieu a vu qu'Adam n'était pas au rendez-vous, il avait déjà compris. Et lorsque Adam lui a dit « J'ai peur », il n'avait pas même besoin que Adam lui dise ce qui s'était passé. Mais évidemment, Dieu souhaite que nous puissions verbaliser les choses que nous faisons et les choses et ce que nous sommes. J'ai eu peur. Nous n'avons pas été sauvés pour avoir peur. Jamais Adam n'avait eu peur auparavant. Jamais il ne s'était caché pour tenter d'échapper au regard de Dieu. La peur est le fruit du péché comme l'amour est le fruit de l'esprit. Jean 4, 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Adam a eu peur de Dieu. Parce que son péché le condamnait. Et il a soudain réalisé que Dieu, qu'il aimait, que Dieu, avec qui il avait une relation si particulière, il a soudain réalisé que Dieu était devenu son juge. La peur, c'est la marque du monde. Et si vous vous rappelez, dans le texte que nous venons de lire, les disciples ont eu peur. Le contexte de ce récit, c'est le contexte de l'enseignement par les paraboles. Jésus est en train de dire des paraboles, déjà depuis un bout de temps. Et cet événement qui se passe là, sur le lac, c'est comme une grande parabole vivante, en fait. Et il y a des choses, des enseignements que nous pouvons retirer de cette parabole. Je vais relire. Marc 4. Je vais lire à partir du verset 33. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait point sans paraboles, mais en particulier, il expliquait tout aux disciples. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons sur l'autre bord ». Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Jésus avait prêché sans doute toute la journée dans cette barque. Et le soir, il le laisse dans la barque lorsque Jésus leur donne le programme pour la nuit, n'est-ce pas ? Passons à l'autre bord, le lac de Galilée, c'est une petite mer malgré tout. Donc il y a du chemin à faire pour aller de l'autre bord. Plusieurs bateaux se mettent à naviguer pour rejoindre l'autre bord. Et soudain, c'est la tempête. Un phénomène qui se produit encore aujourd'hui, le soir venu, vers à partir de 17h, 18h, le vent descend de la montagne et agite les flots sur le lac de Galilée. Avec Brigitte, on a pu le constater, il n'y avait pas une tempête, mais il y avait des clapotis qui étaient conséquents. Mais il paraît qu'effectivement, à certains moments, c'est beaucoup plus violent. Mais là, c'était peut-être encore autre chose, qui n'était pas juste un événement naturel, mais qui était une tempête qui sans doute était hors norme. Et là, l'embarcation devient incontrôlable. Les disciples s'affolent et ils prennent conscience qu'en fait, ils vont mourir. Et dans le même temps, Jésus qui est là, qui est épuisé, eh bien, il est sur ce bateau et il dort. Il est à l'arrière du bateau et il dort sur le coussin. N'est-ce pas, les disciples et Jésus sont dans le même bateau. Mais ils ne sont pas dans le même monde. Les disciples sont dans un monde qui va à la dérive. Un monde qu'ils ne peuvent pas contrôler. Alors que Jésus, lui, est dans un monde qu'il maîtrise et qu'il contrôle. Le monde des disciples, c'est celui de la crainte de la mort, Alors que le monde dans lequel Jésus vit, c'est celui qu'il domine par sa vie. Et quand les disciples s'inquiètent de ce qu'ils vont mourir, alors Jésus se lève, menace le vent et ordonne à la mer de se calmer. Et le vent cessa, et il y eut un grand calme, un calme d'une intensité extrême. Alors notez quelque chose. Je ne sais pas si vous l'aviez déjà noté. À la vue de ce que Jésus fait, il est dit que les disciples furent saisis d'une grande frayeur. Je vais le relire. Il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, il eut un grand calme, puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns et les autres, « Quel est donc celui-ci ?» Ce qui les remplit d'effroi, plus que la tempête, c'est ce que Jésus vient de faire. Et c'est pour ça qu'ils posent la question, « Mais c'est qui cette personne ?» Les disciples, mettez-vous à leur place. Ils sont là, en compagnie d'un homme qui est épuisé, qui dort à poing fermé, et qui, à son réveil, va simplement ordonner avec autorité aux éléments déchaînés de se calmer, ce qui va se produire. Et finalement, dans cette barque, de la même façon qu'il y a deux mondes, le monde de Jésus et le monde qui va à la dérive, le monde des disciples. Il y a aussi deux tempêtes. Il y a la tempête à l'extérieur, dans le vent et la mer déchaînée. Et il y a la tempête dans le cœur des disciples qui se lèvent et qui les remplit d'effroi, de terreur. Il y a un homme qui, des années plus tard, a vécu la même chose. Si vous allez dans Actes, chapitre 9, et là vous savez déjà de qui je parle, n'est-ce pas? On ne va pas faire d'interrogation, mais... Donc c'est évidemment c'est Saul sur le chemin de Damas qui va rencontrer Jésus. En tout cas, qui va se retrouver nez à nez avec une puissance telle qu'il n'en a jamais rencontré. Verset 3, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre, il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Saisi d'effroi. Pourquoi avez-vous peur? C'est la question que pose Jésus. Pourquoi avez-vous peur? Et au lieu de calmer les disciples, n'est-ce pas, l'intervention de Jésus, eh bien, les terrifie. Lorsqu'ils ont réveillé Jésus, C'est pas parce qu'ils savaient que Jésus allait les sauver de la noyade. Ils n'avaient pas du tout cette certitude. Si ça avait été le cas, ils n'auraient pas dit à la fin, mais c'est qui celui-là? S'ils avaient été convaincus qu'il était capable de les sauver, ils auraient dit, hé, oh, Superman, tu viens, s'il te plaît, on a un problème. Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas que Jésus allait pouvoir les sauver de la noyade. Il lui dit, toi qui dors, réveille-toi parce que tu vas mourir comme nous allons mourir. C'est ça qu'ils sont en train de lui dire. Nous périssons. Ensemble, nous allons périr. Et Jésus n'a pas été indifférent, n'est-ce pas, face à la peur de la mort des disciples. Mais s'ils sont bien dans le même bateau, ils ne sont pas dans le même monde. Parce que Jésus ne partage pas la peur des hommes. Jamais. Pourquoi avez-vous si peu de foi? C'est la question qu'il leur pose. Pourquoi est-ce que vous avez si peu de foi? Les disciples ont entendu et vu Jésus s'adresser aux éléments déchaînés. Et ils ont constaté l'efficacité de son autorité. Et ensuite, ils l'ont entendu s'adresser à eux pour leur reprocher d'avoir peur et de n'avoir point de foi. La frayeur qui les a saisis à ce moment-là n'était pas du fait de la tempête en mer, mais du fait de la tempête dans leur propre cœur, provoquée paradoxalement par le calme et l'autorité de Dieu qui émanait de Jésus. Et la question que Jésus posait, n'est-ce pas, c'était ça. Quelle est cette tempête en vous aujourd'hui? C'est la question qu'il nous pose à nous aujourd'hui. Quelle est cette tempête? Qui est celui-ci? En fait, je pense que Jésus voulait qu'il se pose cette question. Parce que c'est évidemment une question essentielle, n'est-ce pas, de savoir qui est celui qui s'adresse aux éléments déchaînés. Il voulait que les disciples découvrent qu'en réalité, ils ne le connaissaient pas. Et que même s'ils étaient dans le même bateau, même que s'ils avaient déjà cheminé avec lui depuis un certain temps, ils ne vivaient pas dans le même monde. Ils ne partageaient pas la même vie. Jésus veut que ses disciples le connaissent. Pas seulement dans sa posture de rabbi, de maître, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'il l'appelle. Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Celui qui raconte des paraboles magnifiques et ensuite qui nous les explique. Il voulait qu'ils le connaissent dans sa gloire divine, dans son efficacité, dans son autorité à régler le problème, pas seulement des tempêtes, mais en tout cas des tempêtes dans le cœur des hommes, le problème du péché de l'homme. Bien-aimés, si nous disons le connaître, mais que nous passons notre vie dans la crainte, alors nous ne le connaissons pas dans sa puissance et dans son autorité glorieuse. Nous sommes dans le même bateau que lui, mais pas dans le même monde. Dans le monde de Jésus, il n'y a pas de place ni pour le stress, ni pour la panique. Et le message, n'est-ce pas, de cette parabole vivante, c'est que nous devons nous rapprocher de Christ pour mieux le connaître. Jésus veut nous faire entrer dans son monde. Il ne viendra pas habiter dans le nôtre, mais il veut que nous entrions dans son monde. C'est ce qu'il a demandé, n'est-ce pas, dans Jean 17, à son Père. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Lorsque nous avons rejoint le monde de Jésus et que nous contemplons sa gloire, alors nous n'avons plus besoin de chercher à réveiller Jésus face aux dangers et aux périls qui peuvent nous arriver dessus. Parce que nous sommes comme lui. Face aux périls, eh bien nous pouvons nous allonger sans crainte dans la barque, nous coucher à l'arrière. Et peut-être que nous pourrons chanter ce petit refrain. C'est un refrain anglais. Peut-être que Jeannette, tu connais. With Christ in the vessel, I can smile at the storm. Avec Christ dans la barque, je peux sourire à la tempête. C'est beau. Jean nous dit dans 1 Jean 4, 17, tel il est, tel nous aussi, nous sommes dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Frère André aimait répéter cette phrase du pasteur Jeremy Taylor, on est plus en sécurité au milieu de la tempête avec Dieu que n'importe où ailleurs sans Dieu. Allons de l'autre bord. Si nous embarquons avec Dieu, le bateau ne chavirera jamais. Le bateau ne chavirera jamais. Aucun plan du malin, aucune malédiction, aucun trait enflammé de Satan, aucune persécution, aucune intimidation ne pourra nous nuire. N'est-ce pas, Ésaïe ? L'avait prophétisé. Ésaïe 54, verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Est-ce que nous pouvons sourire à la tempête? Est-ce que nous avons vu la gloire de Dieu? Est-ce qu'elle est à l'œuvre dans notre vie, jour après jour? Est-ce que le Saint-Esprit de Dieu est venu avec autorité pour intimer l'ordre à la tempête de faire silence? Est-ce que nous avons répondu à la question, quel est celui-ci? Au plus que nous nous rapprochons de Dieu, au plus nous sommes dans la paix et dans le calme. Dans Jacques 4, verset 8, vous lisez, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Je vais m'arrêter là. Est-ce que nous sommes dans la barque avec Jésus ce matin, ce soir? Et si oui, est-ce que nous vivons dans le même monde que notre Seigneur? Est-ce que nous avons contemplé sa gloire lorsqu'il a intimé l'ordre à la tempête de s'arrêter dans notre cœur? Il n'y a pas d'élément déchaîné que Jésus ne peut arrêter. Il n'y a rien qui puisse empêcher notre Seigneur de calmer nos tempêtes. Voilà, je propose de prendre juste quelques minutes et de nous approcher de Dieu.